Saint Jean, chapitre 4, versets 1 à 42. À la nouvelle de l'emprisonnement de Jean le Baptiste, sachant d'ailleurs que les pharisiens s'inquiétaient de voir s'il faisait plus de disciples et s'il baptisait plus que Jean, Jésus quitta la Judée, le sud, et sous l'impulsion de l'Esprit, il retourna en Galilée, qui est une région à côté de la Samarie, qui était déjà aussi bien mélangée avec les païens, on appelait la Galilée des nations. Nation, c'est le terme générique pour ceux qui ne sont pas de la nation juive. Ce qu'on appelle les gentils. La gens, la génération, mais non juive. Les gentils. Or, il lui fallait traverser la Samarie pour aller jusqu'à la Galilée, plus au nord. Il arriva dans une ville de ce pays appelée Sichem, près de l'héritage que donna Jacob à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué, s'assit sur le bord du puits. Ah, c'est merveilleux. Le corps de Jésus, fatigué. Il était environ la sixième heure, c'est-à-dire midi. Survint une femme de la Samarie pour puiser de l'eau. « Donne-moi à boire, » dit Jésus. La Samaritaine répondit, « Comment, vous qui êtes juif, me demandez-vous à boire ? À moi qui suis une femme ?» Oui. Les juifs n'ont aucun rapport avec les Samaritains. Oui. Et avec les femmes, si elles ont leur règles mensuelles, il ne faut pas les toucher. Et encore moins recevoir quelque chose d'elles. Si tu savais le don de Dieu. Vous vous rendez compte un peu? Jésus lui parle comme il a parlé à Nicodème, où c'est de même niveau. Hein. Si tu savais le don de Dieu, et celui qui te dit « donne-moi à boire », toi, tu lui aurais peut-être adressé la même demande, et tu lui aurais demandé de l'eau. Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Le don de Dieu? Qui me demande à boire? L'eau que je pourrais lui donner? Ou l'eau que je pourrais lui demander? Mais comme Jésus lui parle avec bonté et grande élévation spirituelle, elle est très touchée. Rabbi. Elle lui parle là avec plus de déférence. Vous n'avez rien pour puiser. Vous n'avez pas de seau. Et le puits est profond. D'où pouvez-vous avoir de l'eau vive? Et là, c'est une remarque de bon sens, mais là, elle va accompagner l'élévation de Jésus. Êtes-vous plus grand que notre père Jacob? Parce que comme ils sont mélangés juifs et païens, ils disent quand même, on est de la tribu de Nephtali, ou de la tribu de Joseph, qui s'est divisée en deux tribus, on a quand même des origines juives, nous. Jacob est quand même notre ancêtre. Ah oui, mais pas à 100%, tout ça. Elle revendique son origine juive, de la partie juive qu'elle a. Êtes-vous plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, aussi bien que ses enfants et ses troupeaux? Histoire biblique, hein. Réponse d'une Samaritaine à un juif. Seulement, il n'a pas qu'un juif devant elle. C'est Dieu. Un juif est Dieu. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » À nouveau, c'est très très spirituel. « Car l'eau que je lui donnerai deviendra comme une source jaillissante pour la vie éternelle. » Il est en train de lui parler de la vie après la mort, de la vie éternelle, du bonheur éternel, du ciel, alors qu'elle était là pour puiser de l'eau. Hein. Seigneur, répartit la femme, donnez-moi de cette eau. Et là, c'est la religion naturelle, les réunions de prière en disant « Jésus, Jésus, j'ai un cancer, guéris-moi. Jésus, Jésus, je suis au chômage, que je trouve un travail. » Donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus ici pour puiser. Là, elle redescend. Hein. Et là, le bon Jésus, assez extraordinaire. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et reviens. Et là, elle est saisie. Ça, c'est la science divine. Comment Jésus pouvait savoir? Je n'ai pas de mari. Je ne suis pas marié. Et là, Jésus lui dit. Et là, c'est Dieu. C'est un miracle ce qu'il fait. Connaissance de choses cachées. Tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. Et là, il tourne le couteau dans la plaie. Hein? Tu en as eu 5. Et celui avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Oh, morale conjugale, hein, à froid hein, quand même, hein, un peu. Hein. En cela, tu dis vrai. Et là, elle est saisie. Seigneur, je vois que vous êtes un prophète. Elle en profite, elle dit, bon, j'ai un homme de Dieu devant moi. Nos pères ont adoré sur cette montagne, le mont Garizim, où il y avait le veau d'or et tout ça, à cause des Babyloniens qui voulaient pas que les Hébreux du Nord descendent au temple de Jérusalem dans le Sud. Et vous, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Femme, il n'y a aucun mépris avec tout ce qu'il vient de lui dire quand même. Crois-moi. Et là, c'est le vertige hein, de la nature divine et humaine de Jésus. Hein, l'heure est proche où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Et ça, c'est très dur pour des Juifs d'entendre ça. Et même en 2018. C'est-à-dire qu'il ne faut pas reconstruire le temple de Jérusalem parce que le vrai temple, c'est Jésus hostie dans tous les tabernacles du monde. Expliquez ça à un Israélien, vous allez voir, la conversation va être limitée. L'heure est proche où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Le Père, il introduit le mot de Père, de son Père. Vous adorez, vous, ce que vous ne connaissez pas. Religion naturelle de la divinité. Hein, on se dit bien que c'est ni Madame Nature, Monsieur Hasard et Monsieur Temps qui est la Trinité intelligente qui a fait la création. Vous adorez, vous, ce que vous ne connaissez pas. Nous. Et là, Jésus dit, j'ai un papa, j'ai une maman juive. Mon papa adoptif, il est juif aussi. Hein. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. La vraie religion. Car le salut vient des Juifs. Bon. Seulement les Juifs devaient reconnaître Jésus. Donc les vrais Juifs sont maintenant chrétiens et baptisés, comme tous les premiers Juifs qui ont été baptisés. Et ceux qui sont actuellement Juifs, eh ben ils sont en retard. Ils ont la vraie religion, mais il leur manque les étages supérieurs. Ils ont les fondations, le rez-de-chaussée, le premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage. Mais bon, si l'immeuble est prévu pour avoir 12 étages, ça fait cloche. Il faut que vous allez au 12e étage. Et nous, au 12e étage, on est là. Ben oui. Vous voyez, dans le dialogue interreligieux, je serais peut-être pas très bon. Vous voyez, un peu trop... Le salut vient des Juifs. Mais l'heure arrive... Et déjà elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont de tels adorateurs que veut le Père. Donc comme les Juifs avaient un peu privatisé la vraie religion, dans l'œuvre rédemptrice pour laquelle le Christ est venu, il va, l'agneau de Dieu qui va être immolé sur la croix, comme l'agneau de Dieu qui avait été immolé pour le passage de l'Égypte à la Terre Sainte. Mais là, voyez-vous, Dieu insiste et dit, maintenant c'est toutes les nations qui vont voir mon salut. Le vieillard Siméon, il prend le bébé et il dit, c'est la lumière des nations. Et la gloire d'Israël, mais la lumière des nations. Et il n'y a pas plus épanoui qu'un juif baptisé. Mais s'accomplit toute sa religion. Et ce sont de tels adorateurs que veut le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Là, bon. Et là, elle se démonte pas, hein. On est au catéchisme, alors autant en profiter. Je sais que le Messie, qu'on appelle Christ, le Oint, celui qui a l'onction divine, l'huile divine, qui imprègne sa nature, son corps, son âme humaine, doit venir. Lorsqu'il sera venu, il nous enseignera toutes choses. Et là, Jésus a cette femme. C'est moi qui te parle. À elle, il dit qu'il est le Messie. Alors que, aux pharisiens, aux prêtres, aux scribes, il les tient en suspens au temple de Jérusalem et dit « Alors, c'est qui, machin, je vous le dirai pas. Hein? » Eh bien, à la Samaritaine, il dit « C'est moi. » Vous vous rendez compte un peu? Quelle délicatesse, quelle profondeur, c'est fou. Il révèle, et on oublie ça, il révèle à cette femme qu'il est le Messie, hein, à un moment donné. Alors que plus tard, il ne dira pas qu'il est le Messie. Et là, à elle, il le dit. En ce moment, ses disciples arrivèrent et s'étonnèrent de ce que Jésus s'entretint avec une femme. Néanmoins, aucun ne lui dit « Que lui demandez-vous » ou « Pourquoi parlez-vous avec elle ?» Quant à la femme, laissant là son urne, elle courut à la ville et à tous ceux qu'elle rencontrait, elle disait « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Hein, le miracle, hein, quand même. Hein. Ne serait-il pas le Christ ? Ils sortirent donc de la ville et vinrent à Jésus. Cependant, les disciples le pressaient. « Maître, disait-il, mangez donc !» Il leur répondit, « J'ai à me nourrir d'un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Et Jésus complète, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, de celui qui m'a envoyé. » Et là, vous voyez, on est entre l'homme et le Verbe. Il a été envoyé d'où ? Créé, âme et corps, et il n'y a pas plus que cette nature humaine. Ne dites-vous pas encore 4 mois et la moisson viendra ? Moi je vous dis, levez les yeux et voyez les campagnes, elles blanchissent déjà pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit sa récompense et recueille le fruit pour la vie éternelle. Mais celui qui sème a autant de raisons de se réjouir que celui qui moissonne. Jésus est le grain tombé en terre qui va mourir et il va laisser les chrétiens moissonner, évangéliser à travers tous les continents. Ainsi se justifie l'adage « Autre est le semeur et autre est le moissonneur ». Je vous ai envoyé moissonner où vous n'aviez pas travaillé. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, le peuple juif qui a gardé la foi, eh bien tout ça, ça va être donné à toutes les nations. On comprend qu'ils soient jaloux. Oui. D'autres ont travaillé et vous, vous êtes entrés dans leurs travaux. Or, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en lui, sur les témoignages de cette femme qui leur avait dit « Il m'a raconté tout ce que j'ai fait ». Ils vinrent donc le prier de demeurer chez eux. Il s'y arrêta 2 jours et il y en eut un bien plus grand nombre pour croire en lui après avoir entendu sa parole. Étant donné la bonté avec laquelle il a parlé à la Samaritaine, il a dû leur révéler des choses très belles. Vous voyez ? Et moins en parabole, plus direct, je pense. Parce que voilà ce qu'ils ont conclu de ce que Jésus leur a dit pendant 2 jours. Ce n'est pas plus seulement sur ton récit que nous croyons. Nous aussi, nous l'avons entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et c'est fou quand même. Salvator Mundi. Vous voyez, des Samaritains qui disent, non seulement il est le Christ, il est le Messie, qui a été prévu par les prophéties de nos ancêtres juifs, Abraham, Jacob, Moïse, mais il est le sauveur du monde entier. C'est assez impressionnant. Ce qui fait que, voyez-vous, lorsque nous prions, Jésus... alors, il y a un mystique qui me disait que... comment dire, il est peut-être complètement fou, hein, mais bon. Il me disait, quand il parlait à Jésus, bien sûr, il disait, on sent... Je ressens qu'il est un homme. Dans le sens où, comment dire, il a souffert quand même de la méchanceté et de l'ingratitude quand il était parmi nous, et il vit intensément les péchés qui se produisent actuellement. Jésus est homme et Dieu. Et son âme humaine continue à vivre le développement de l'histoire terrestre aussi. C'est aussi en tant qu'homme qu'il est triste. C'est aussi en tant qu'homme qu'il est joyeux aussi de voir des conversions, des personnes aimées, faire le bien sur terre. Mais voyez-vous, ce n'est pas parce que Jésus sait de toute éternité dans le Verbe divin tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps que maintenant, aujourd'hui, il ne voit pas les gens être malade, mourir, souffrir, se détester, se faire la guerre. Alors qu'il est dans le bonheur éternel, hein, le Verbe divin est dans une félicité éternelle. L'âme de Jésus n'était pas susceptible de souffrance. Il y a un miracle à la souffrance du corps et de l'âme de Jésus, puisqu'il était dans la vision béatifique. La transfiguration, Jésus est là et son âme qui voit Dieu, ça rejaillit sur le corps et le corps devient lumineux. Les atomes de son corps entrent en ébullition, en rayonnement. Et qui apparaît aux côtés de Jésus? Moïse et Élie, rien que ça. Et il parle de sa future mort. Donc quand vous avez des gens qui disent « Ah, mais est-ce que Jésus savait qu'il allait mourir ? Dans quel délire ?» Vous voyez, à la transfiguration, il parle de sa mort. Et il dit à ses apôtres à 3 reprises, mais il le dit à ce moment-là, à Pierre, Jacques et Jean, « Je vais mourir et je vais ressusciter. » Et quand vous lisez des auteurs qui disent « Ah, mais est-ce que Jésus savait ci, savait ça ?» Ou « pour la transfiguration, « Oh, mais il dormait, c'est un songe. » Comment dire, cette vision divine, cette parole du Père, cette parole, au moment du baptême du Christ, au moment de la transfiguration, le Père parle. Et au moment de l'entrée de Jésus à Jérusalem, pour le dimanche des Rameaux, où il dit « Jérusalem, Jérusalem, tant de fois j'ai voulu réunir tes enfants comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, et tu n'as pas voulu. » Et là, il s'adresse à son père et il dit, « Père, redonne-moi la gloire que j'avais avant la création du monde. » Et là, le père lui répond, « Je t'ai déjà glorifié et je te glorifierai encore. » Et en toi je serai glorifié. Et là, les apôtres entendent la voix du Père, et d'autres disent, c'est un tonnerre, c'est un esprit qui lui a parlé, c'est un ange qui lui a parlé. Ah non, c'est la voix du Père, hein, le même Père qui a parlé au Sinaï, hein, au Sinaï. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, du surnaturel constant qu'il y a, et en même temps du naturel, parce que Jésus entre, chasse les marchands du temple. Voyez. Alors, au point de vue science pratique, il a pris des cordes. Et la colère, la sainte colère, c'est que Jésus s'assied tranquillement et il fait du macramé. Non, 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 non. Il prend une corde, il fait voilà, en dessous, machine, voilà. Une corde. Il se relève et il frappe les moutons, il chasse tout le monde, il renverse les tables et tout. Mais imaginez la joie hein, de Jésus d'avoir une bonne colère humaine. Lui qui dans des colères divines, vous voyez, quand vous avez Élie qui est là et qui dit Seigneur, faites descendre le feu du ciel, et là vous avez le feu qui descend, qui crame le taureau, le bois, la pierre, et qui laisse un cratère sur le mont Carmel. Hein. Où il y a eu des colères divines. Hein. Eh bien, cette colère-là, elle est sympathique. Elle est simple, il n'y a pas de mort. Voyez, Dieu a pu faire autre chose, hein, je peux vous assurer. Hein. Je ne vais pas vous faire la litanie des colères divines dans l'Ancien Testament. Et bien là, il renverse les tables des changeurs et tout ça, et il semble que ceux qui vendaient les pigeons, qui étaient en général des vendeurs plus modestes, parce que c'était ça payait pas beaucoup de vendre des pigeons et des colombes, et eux ils les attrapaient dans la campagne, tout ça, avec des filets ils prenaient, mais ça se vendait un as, comme on dit, hein, une pièce. Et il semblerait, ce sont les gens plus modestes, et Jésus leur dit, vous partez. Et là, ils ne demandent pas leur reste, parce qu'ils voient les moutons partir dans tous les sens, tous les gens se jeter sur les pièces du temple, les pièces romaines, les autres, c'est pas possible. Tous les changeurs qui voient leur balance partir en l'air, et tout ça. Et alors, les prêtres qui sont là, furieux, parce qu'ils ont une dîme hein, de tout ça... De quel droit fais-tu ça? C'est la maison de mon Père. Et là, hop, la Trinité. La maison de mon Père. Et quand il dit « Mon Père est plus grand que moi », il le dit en tant que nouvel Adam. Mais quand il dit « Mon Père et moi, nous sommes un », il est co-éternel, co-glorieux. Détruisez ce temple, et en 3 jours je le rebâtirai. Et c'est ce qu'on reprochera à Jésus, au jugement. Et là, vous voyez, il dit, mais as-tu dit ça? Il dit rien, puisqu'il l'a dit, il y a suffisamment de témoins qui disent n'importe quoi, enfin, 2 jours, 4 jours, et là, le grand prêtre se lève et dit, mais es-tu le Messie? Et là, il rajoute le Fils du Dieu vivant, mais dans une filiation spirituelle. Et là, Jésus lui répond, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme, hop, à nouveau incarnation, venir sur les nuées du ciel, et là, la divinité, car il n'y a que la divinité qui est sur les nuages, avec les anges monter et descendre autour de lui. Et là, le grand prêtre, lui, il n'a pas fait beaucoup de théologie chrétienne, hein. Il se déchire les vêtements et dit, a-t-on besoin de plus de témoignages? Étant homme, il se dit Dieu. C'est pas possible. Et il a blasphémé. Et quand Jésus dit il y a les pharisiens qui sont autour de lui et il dit avant, il parle d'Abraham. Et là Jésus leur il dit nous sommes fils d'Abraham hein et toi qui es-tu? Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Abraham a vu son jour. Mais tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham? Et là Jésus leur répond avant qu'Abraham fût Yahvé. C'est le blasphème suprême. Hein. Je suis. C'est-à-dire que j'ai existé avant Abraham. Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Donc il est en train de dire qu'il est Dieu. Et là, pas de problème, ils se baissent, ils ramassent des pierres pour le lapider. Et là, Jésus leur dit, mais pour quel mal vous voulez me lapider ? Pas de problème, hein, c'est, étant homme, tu te dis Dieu, hein, c'est un blasphème, donc on te lapide, c'est tout à fait logique, c'est dans la loi de Moïse. Hein, tout. Vous voyez, mais c'est extraordinaire, quand vous voyez la scène, elle est d'une logique implacable et elle est historique. Vous voyez, ça ne s'invente pas comme dialogue. Nous sommes les fils d'Abraham. Ils sont en train de se disputer. Ils disent, vous êtes menteurs, tout ça, vous voulez me tuer. Vous appartenez, vous êtes des fils de Satan. Voilà, ils disent, quoi, on est des fils de Satan? Oui, puisque vous voulez me tuer. Et Satan est homicide dès le commencement du monde. Mais nous sommes fils d'Abraham et pas de fils de Satan. Nous sommes. Jésus leur dit, eh bien, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Il dit, mais tu n'as pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Avant qu'Abraham fût, je suis. De nombreux prophètes ont voulu voir ce que vous voyez en ce moment et ne l'ont pas vu. Voilà, toute cette vie du Christ, voyez-vous, dans une fresque un peu... Voilà. Et donc je vais m'arrêter là, puisque je dois respecter mon contrat de 21h30. C'est allé jusqu'à 23h. Hein. Pourquoi il est quelle heure? Voilà. Avez-vous des questions?
J'ai une question, Robert.
Oui.
Je reviens sur la taille de Jésus, parce qu'il y a des gens qui disaient que vous êtes 3 maintenant.